L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Scénario original de Julien Jean-Pierre. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Une personne m'a dit qu'on puisse tomber amoureux d'un personnage de livre. Elle comprendra mieux. Elle m'a dit qu'elle comprenait pour un tableau. Or, si elle comprend pas pour un tableau, pourquoi pas pour un personnage. Surtout que je peux fondre dans le film. J'ai pas été seul à tomber amoureux d'un personnage d'un film. Un acteur américain était amoureux de Daniel Darieux. Il a acheté le film Madame De. Et il a interdit à ce que le film soit diffusé. Il a été le propriétaire du film jusqu'à sa mort. Après, le film est repassé sur les écrans parce que les héritiers ont accepté que le film soit revu. Voilà à quoi pense Pierre. Le temps passe. Dans un magasin ici, il est grand, mince, très élégant. Il s'appelle Yannick. Il sera bientôt le héros d'une de mes histoires que je vais commencer à écrire, qui s'appellera « Douceur amère ». Là, c'est notre rencontre. Je lui demande si ses études vont bien. Il me répond avec une légère rougeur que ça va doucement. J'ai ressenti que ça n'allait pas bien. J'ai aimé sa faiblesse. Je lui demande... Je me demande s'il pourrait. Il me demande si la bouteille de vin est pour lui. Je lui réponds que non. Et il demande, vous aimez le vin? Il me dit oui. J'ai ressenti qu'il avait besoin qu'on lui donne quelque chose. Qu'il avait besoin de sentir qu'on l'appréciait. Je lui ai dit, prenez-la. Il me dit non. Je lui dis que je lui donnerai des places de cinéma. Ça vous plaît? Il me dit oui, bien sûr. Durant cette discussion, je regarde le bord de son visage. Il a un côté clair et séduisant. Le léger duvet qui entoure ses lèvres est délicieux et m'attire. J'ai senti qu'il est un peu perdu et est prêt à tout recevoir. Touché la main qu'il a serrée très fortement. J'ai envie de lui dire que je cherche, disons, un fils, un héritier. Je suis seul et j'ai peur que tout ce que j'ai soit détruit, même mes œuvres. Lui pourrait les garder, les montrer, diffuser, etc. Il est beau, jeune, semble intelligent et sensible, élégant aussi. Je veux aller doucement avec lui. Je le fais rentrer dans mes rêves. Plus tard, mon amour pour lui est tellement pur que même dans mes rêves, j'ai aucun fantasme érotique avec lui, ni avec d'autres. Grâce à toi, j'ai trouvé la plénitude de l'amour, l'amour du don sans arrière-pensée. Cela n'a rien à voir avec un personnage de roman ou de film. Mais est-ce que je l'aime ou m'imagine des choses sur lui? Est-il vraiment comme ça? Est-ce que je l'enferme pour en faire un personnage de roman? Comment savoir? L'amour est aveugle et nous rend des êtres que l'on aime d'une façon plus ou moins déformée. Malgré tout, je veux l'aimer et croire qu'il est comme ça. La SCAM risque de refuser après plusieurs années mon émission dans ce répertoire. Pour elle, ce n'est pas vraiment de la création. Si elle le fait, j'aurai tout perdu. Une vie ratée. À moins qu'il me reste peut-être cet amour naissant ou qu'il refuse mes sentiments. Alors, je n'aurai plus rien. Ce que je viens de vous dire, je l'écris d'une façon douloureuse et brute, c'est-à-dire mal. J'ai eu beaucoup de réticence à vous présenter ce que j'ai écrit, parce que c'était très fort et difficile à comprendre. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Des histoires comme celle-là, il doit y avoir des milliers. Qui n'a pas rêvé en voyant une photo dans un journal au cours de l'adolescence? Un tel besoin d'affection vous fait la même chose. Enfin, à mon époque, peut-être plus que maintenant, parce que les libertés et les choses sont plus simples. Et l'on a moins besoin de rêves, on peut vivre réellement. La solitude rend fou en nous faisant croire ce qui n'est pas, ou intelligent en nous faisant croire ce que les autres ne savent pas voir. Oui, la solitude rend fou en nous faisant croire ce qui n'est pas, ou intelligent en nous faisant voir ce que les autres ne savent pas voir. J'aurais aimé faire un film de cette nouvelle, une histoire, parce qu'elle a 211 pages. J'aurais fait entrer le héros dans le rêve. Mais j'ai un peu peur de rentrer trop dans l'intimité du héros. Lorsque l'on est adolescent, on recherche à aimer en idéalisant. On rêve qu'on le trouve. Et quelquefois, c'est une image. Et quelquefois, c'est une image. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Voilà, cette histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu pas mal de difficultés à l'écrire et puis aussi à vous la présenter parce que c'était un peu particulier comme type d'histoire. Mais il est vrai, c'est lorsque, au début de l'adolescence, on a tellement besoin de poser son affection sur quelque chose, quelquefois on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on se pose son affection sur une image. Alors pour finir la semaine, avant une autre histoire, j'en vais vous parler un petit peu comme ça. Je trouve c'est que j'ai eu une bonne idée, enfin, je le pense, c'est de faire un passage dit par le narrateur et ce même passage redit par le personnage, celui qui a vécu cette histoire. J'ai mis dans la deuxième musique, la musique où le personnage parle, j'ai mis la musique du film « Amis pour la vie ». Et la musique que vous avez entendue au cours de l'histoire, c'était « Le blé en herbe », le fameux film de Claude Autant-Lara, le magnifique film de Claude Autant-Lara. J'espère c'est que vous avez compris mon histoire, qu'elle ne vous a pas choqué ni rien. C'est comment dire, on peut appeler ça un drame intérieur d'un enfant et d'un jeune adolescent, et un drame intérieur qui a touché, cet enfant a vécu quelque chose qui l'a frappé toute sa vie. Après cette histoire, cette histoire que vous avez entendue parle des paradis de l'enfance qui ont été violés. Le héros a violé son paradis de l'enfance. Après cette histoire, je parlais à peu près de la même chose dans « Qu'est-ce que fait courir Jean-Denis ?» Mais ça parlera aussi des vers paradis de l'enfance, mais là, des vers paradis de l'enfance que l'on souhaite qu'ils durent toute la vie. Il n'a pas été violé, mais c'est un vers paradis de l'enfance dont on rêve toute la vie. Et puis, je vais faire une troisième histoire, là, qui je n'ai pas écrite. C'est l'histoire avec le fameux Yannick, le personnage que vous avez vu, là, qui est vendeur tout à la fin de l'histoire. Alors, cette histoire, ça s'appelle « Douceur amère ». C'est une histoire sur la désillusion de la vie, la recherche d'un monde perdu. Là aussi, c'est la désillusion des espérances. Enfin, vous verrez, mais c'est plus classique hein, comme histoire. Maintenant, je vais vous donner quelques petites idées que j'ai sur certaines choses. Des idées que j'ai retrouvées dans un vieux cahier. Les fausses idoles. De tout temps, l'homme a eu besoin de s'identifier, d'avoir pour modèle d'autres hommes choisis dans la vie courante ou les légendes. Avant, ces hommes auxquels on s'identifiait étaient des personnages hors du commun, tels que des rois, des guerriers, des dieux, des grands savants, ou quelquefois des personnages de légende, tels que ceux d'Homère ou des chevaliers de la Table ronde. Ces êtres étaient des gens qui avaient eu une vie exceptionnelle et qui représentaient de grandes qualités. Maintenant, l'homme a toujours besoin de s'identifier à d'autres hommes, mais comme l'époque où nous vivons ne nous fournit plus des êtres hors du commun ni des personnages de légende, alors l'homme se rattache à de fausses idoles, telles un homme qui se noie s'agrippe à la première chose venue, même si c'est une branche pourrie. Ces faux idoles sont des chanteurs, des sportifs, des comédiens, des tapis, etc., etc. Toutes ces idoles de notre époque sont éphémères et ne durent que l'espace d'une saison. Elles sont creuses, impuissantes, maigres, médiocres et n'ont rien à donner. Notre époque est la première à ne pas pouvoir fournir à ses contemporains la chose la plus indispensable qui soit pour la survie de la société et le développement de l'homme. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de s'identifier, d'idolâtrer ? Je crois que c'est une chose innée. Dans ce putain d'enfance, l'homme s'identifie à ses parents. Et puis, un jour, il s'aperçoit que ce qu'il idolâtrait n'était que des êtres comme tout le monde. Alors, il cherche ailleurs ce qui ne trouve pas chez lui. Et c'est ce qui lui permet de s'ouvrir au monde et de se comparer avec les autres ou aux autres. En voyant ses défauts et ses qualités, il peut de ces façons s'améliorer et mieux comprendre les autres. Nous avons besoin, pour nous développer, de prendre racine, de s'identifier, d'avoir une base, un modèle qui soit dur, fort et grand, qui peut nous prouver par quelque chose de suffisamment fort. Et comme nous devons nous baser sur quelque chose, nous le faisons sur ce que la société nous offre. La jeunesse d'aujourd'hui est malade du manque de héros de Dieu et ne peut trouver de modèle de base pour son développement. Elle se développe comme elle peut, sans âme, ni force, ni foi. Elle se développe de mauvaise manière anarchique, suivant son inconscience, son insouciance. Ceci forme une jeunesse, un peuple, une société à la dérive, comme un bateau dont l'équipage serait sans capitaine. Une société qui vit sans idéal, sans modèle, pour sa jeunesse, est une société qui se meurt du manque de création, de combativité. Car pour créer, il faut une base, un besoin. Pour combattre, il faut un but, un modèle auquel on doit aboutir. La civilisation occidentale est à l'agonie, faute d'idoles pour sa jeunesse. Notre société forme des êtres à l'emporte-pièce, sans âme ni idéal. Dès leur plus jeune âge, ils sont dirigés, formés, étiquetés pour un certain type de personnalité, de travail. Au lieu de former la jeunesse à devenir des hommes, où on les forme à un certain type de vie. Mais ce système ne peut pas durer longtemps, car l'être humain n'est pas une machine qui ressemble à d'autres machines. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent et qui aient les mêmes besoins pour vivre, en plus des besoins vitaux, bien entendu. La société humaine ne peut pas vivre comme des sociétés de robots. L'homme se révolterait contre ce système, car il est inné pour lui d'avoir une personnalité propre et indispensable pour son développement. L'homme doit vivre en société tout en restant indépendant le plus largement possible de cette société. Ceci fait partie d'une des particularités de l'espèce humaine. Bon, maintenant, attendez une seconde, je vais mettre de la musique, mais là, il faut que je le fasse en direct. Alors, 470... Pardon. Hop. Voilà, je mets le mini-disque. Parce que si je parle sans arrêt, vous allez vous... ça va vous casser la tête. Alors, 0, 0, 0, 0. C'est quoi? 7. Numéro 7. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'est parti. Ma vie te gâchit. Je croyais trouver chez les autres ce que je croyais ne pas savoir avoir. J'ai trop demandé aux autres et pas assez à moi-même. Car je ne me connaissais pas. Je croyais les autres grands. Ils étaient plus petits que moi. Mais ils avaient quelque chose d'essentiel qui faisait qu'ils étaient plus forts que moi. Ils avaient confiance en eux et moi pas. Je ne croyais pas en moi. Moi, pour vivre, je recherchais la grandeur, la noblesse chez les autres. Eux se contentaient de la médiocrité, de l'insignifiance, de l'uniformité. La grandeur se trouvait en moi et je ne le savais pas. C'est pour cela que ma vie est un gâchis. J'ai cru pouvoir m'accrocher aux autres, mais les autres étaient comme du bois pourri, déjà mort. Je suis, sans le savoir, accroché à la mort. Connais toi-même, avant de chercher chez les autres, ce que crois qui te manque. Pour moi, le péché originel, c'est d'avoir imité Dieu en créant. Adam et Ève ont péché en faisant naître un autre être. Dieu leur avait interdit, car créer, c'est imiter Dieu. Ils étaient immortels parce qu'ils étaient une créature unique et parce qu'ils avaient été faits par Dieu. Et comme Dieu ne voulait créer que des choses pour l'éternité. Lorsqu'il s'est aperçu qu'on l'avait imité, il eut une très grande colère et se dit que pour différencier son œuvre à celle des autres, que tout ce qui serait créé en dehors de lui serait mortel. Comme il avait prévu, l'immortalité n'est bonne que si l'œuvre est unique. La vie ne serait pas immortelle. La vie ne sera pas immortelle grâce à deux êtres, mais par la vie ne sera pas immortelle grâce à deux êtres, mais par une chaîne d'êtres humains qui se fera inlassablement. Là, j'ai eu des difficultés à parler. Excusez-moi, c'est vieux. C'est du vieux papier. Il ne faut pas tout accepter de la vie. Sous prétexte qu'il faut vivre, vivre, ce n'est pas courber la tête. Pour vivre comme un homme, il faut rester droit et intransigeant sur des choses qui vous paraissent essentielles. Ce n'est pas parce que les autres acceptent certains coups du sort que l'on doit en faire autant. Sous prétexte que l'on doit continuer à vivre, quoi qu'il arrive, parce que la chaîne de la vie doit continuer. On doit vivre n'importe comment, n'importe quoi. À force d'accepter ce que la vie nous apporte, on ne vit plus sa propre vie, mais celle d'un autre. Il faut se faire une certaine grandeur de sa vie. Il faut se faire une ligne de conduite, accepter certaines choses de la vie et en refuser d'autres. Il n'est pas noble de faire semblant, de se faire plaisir, d'avoir l'illusion de s'enivrer de petits plaisirs, de faux plaisirs, pour oublier les peines que l'on vient d'avoir. Mais si l'on ne faisait pas, l'on ne pourrait plus vivre. Vous serez plus grand en restant avec vos peines, si la peine est trop forte. Au lieu... Attendez... Il serait plus grand. Vous serez accepté. Il n'est pas noble de faire semblant de s'enivrer, petit plaisir d'avoir mais pour vivre. Vous serez plus grand en restant avec vos peines. Et si la peine est trop forte, au lieu de crier bêtement, il vaut mieux se suicider. Je dis oui au suicide. Il est plus noble de se donner la mort que de vivre bêtement, médiocrement, en acceptant tout de la vie, non à un certain coup du sort, non à la vie à tout prix, non pour la vie, oui pour la vie avec un certain idéal, une certaine absolue. Vivre pour la vie, quoi qu'il arrive, c'est une idée de la société pour qu'elle puisse continuer quoi qu'il arrive. C'est aussi pour nous faire accepter ce qui est inacceptable, les misères qui ne sont pas créées par la nature, mais par les hommes. Ce que j'écris, ce n'est pas une négation de la vie, un appel à la mort, mais un appel à une vraie vie, noble et forte, pour que chacun puisse vraiment vivre sa propre vie et non survivre. Les vieux lords d'âme. Il est des gens qui, par joie sadique, cherchent à rentrer à l'intérieur des hommes pour y trouver des cités interdites. Ils y rentrent, soit par force, soit par ruse. La plupart du temps, c'est par ruse. Ils entourent leurs victimes de douceur, de confiance, de confidence. Sans qu'elle se rende compte, la personne se laisse mener, dominer par le violeur. Et un jour, la porte qui renfermait le site s'en trouve. Il est trop tard, le violeur a vu. Pour que la joie du violeur soit complète, il faut, après avoir vu, la ville qui fasse souffrir sa victime. Les souffrances que le violeur impose sont fatales pour sa victime. Celui qui a été violé n'en guérira jamais. Sa vie deviendra un supplice et en mourra. La différence qu'il y a entre le violeur et le violé, c'est que le violeur, pour arriver à ses fins, extériorise ses vices et le violé garde ses vices cachés à l'intérieur de son être. Surtout ne croyez pas que ce que vous trouveriez soit original. À l'intérieur de chaque être se trouvent le bien et le mal. Tout le monde a sa cité interdite. à l'intérieur de nous-mêmes se trouve le bien et le mal, nous n'y pouvons rien. C'est ainsi. Dieu a voulu que l'homme puisse choisir et être libre d'agir. C'est pour cela qu'il a mis à l'intérieur de nous-mêmes le bien et le mal. C'est à nous de savoir lequel des deux doit être prédominant, je dis bien prédominant. Il est criminel de chercher à voir la cité interdite des êtres. Chercher à l'intérieur de l'homme ce qu'il y a de plus inavouable, de plus impur, démontrer à la personne qu'elle est ignoble, la dégoûter d'elle-même à un tel point qu'elle ne peut plus se regarder qu'avec horreur. Car chaque être ne connaît ses désirs inavouables que derrière un voile. Si on lui montre ses désirs inavouables sans voile, cela devient pour elle insupportable. Car pour que l'homme puisse s'aimer lui-même, ce qui est vital pour lui, il faut qu'il ait l'impression d'être une personne respectable pour lui-même et les autres. Le violeur tue son homme en lui démontrant qu'il n'est plus respectable ni pour lui, ni même pour les autres, mais surtout pour lui-même. Alors le violeur se dégoûte, se sent seul, il ne reste plus qu'à mourir. La mort peut provenir soit de la honte ou du chantage affectif. Je ne veux plus te voir maintenant que je te connais. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir sa cité interdite, mais que le bien soit prédominant dans sa vie. Ce qui compte, c'est de savoir cacher ses besoins, ses désirs inavouables à l'intérieur de soi, de ne pas les extérioriser. Vous serez bon en luttant contre les mauvaises pensées qui se trouvent à l'intérieur de vous-même, de votre âme. Chaque être, même s'il a choisi, lutte intérieurement entre le bien et le mal. Tous les hommes ont des désirs cachés, inavouables, qu'ils cachent à l'intérieur de lui-même. Celui qui cherche à connaître les désirs cachés de ses semblables est un assassin. À l'intérieur de chaque homme se trouve un poison. L'assassin n'a qu'à le chercher. Petite flamme. Chaque être a dans son corps une petite flamme. Cette petite flamme sert à mesurer notre puissance vitale. Cette puissance vitale est nourrie par le moral qui provient de l'âme. Le moral de l'âme, c'est le plaisir. Le plaisir qui provient de son monde intérieur et extérieur. C'est la satisfaction que l'âme a eu de son monde intérieur et extérieur. Plus le plaisir est fort, plus le moral est grand. Plus le moral est grand, plus il nourrit la puissance vitale. Plus la puissance vitale est nourrie, plus elle est forte. Plus la puissance vitale est forte, plus la petite flamme est grande. Les sentiments. Attendez, je vais arrêter. Le retour. Voilà. C'est un peu comme en direct, hein, cette fin d'émission. Les sentiments. Chaque être a besoin de se sentir aimé et d'aimer. Ceci est vital, car vivre, c'est aimer. Il y a dans les sentiments quelque chose de défini et même en même temps d'indéfini. Si on demande à une personne pourquoi elle affectionne telle personne, elle aura beaucoup de peine à nous le dire. Les sentiments sont des choses abstraites qui n'ont pas de règles. L'on aime une personne à cause de son physique, de ses pensées morales, ou même à cause de ses défauts, ou par pitié. On peut surtout aimer une personne parce qu'elle représente ce que l'on aurait aimé être. Dans les affections, les plus fortes sont celles où l'on aime une personne qui représente ce que l'on aurait aimé, que l'on aurait aimé être, car en aimant la personne, on s'aime soi-même. Ces sentiments arrivent de deux façons, soit par coup de foudre, soit petit à petit, et après, sans s'en rendre compte, on connaît une personne et au fur et à mesure que l'on la connaît mieux, on se met à l'aimer malgré ses défauts. Là, je ne compte pas pour les sentiments. À tout âge de la vie, on peut être aimé et l'on aime. Même le nouveau-né aime et le vieillard aussi. Que ce soit pour l'amour ou pour l'amitié, il n'y a pas d'âge. On a donné des noms aux différents degrés de sentiments, mais suivant les personnes, ces noms ne définissent pas le même degré d'affection. Les mots « copain » pour certains peuvent représenter tout simplement « connaissance » et pour d'autres, il peut aller jusqu'à « amitié ». Le mot « amitié » pour certains peut aller jusqu'à « amour » et pour d'autres, il représente la camaraderie. Les sentiments sont difficiles à se différencier entre eux car ils s'enchevêtrent. Qu'est-ce que l'amitié ? C'est de l'amour. La différence qu'il y a entre les deux amours, c'est que l'un, l'amitié, n'a pas de désir charnel et l'autre en a. Mais en amitié, on peut, sans s'en rendre compte, être attiré physiquement par l'autre. Qui dit physique peut dire chair et en amitié, l'attirance charnelle reste inavouée, ni aboutie. En amour, elle s'extériorise. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut une attirance, un besoin charnel et de l'amitié. Pour qu'il y ait de l'amitié, il faut quelquefois de l'attirance physique et surtout des sentiments profonds. L'amour sans l'amitié, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'un besoin physique. L'amour est un sentiment qui, pour s'exprimer, a besoin de son corps et de son cœur. L'amour n'est pas un sentiment pur ni désintéressé. Est-ce vraiment un sentiment? Ou représente-t-il un assemblage de ce que l'on ressent? Le mot amour ne représente pas un tout, mais plusieurs choses mis bout à bout. L'amour ne veut pas dire sentiment, mais des choses que l'on ressent. Par contre, le mot « amitié » est plus près des mots « sentiment » car il représente un tout et il est désintéressé. Les sentiments se transforment, bougent. L'amour peut se transformer en tendresse. La tendresse est la diminution de l'amour. Ceci peut être créé par une diminution d'attirance physique ou si l'amour était trop fort au début, cela se fait petit à petit, sans que l'on s'en rende compte. L'amour se transforme en une sorte d'amitié que l'on appelle tendresse. Ceci est causé par l'âge, le temps. La transformation de l'amour en tendresse se fait d'une façon très douloureuse. Tous les sentiments se transforment, bougent constamment. Ils grandissent ou diminuent. En se transformant, ils changent de nom. Il y a des sentiments obligatoires comme ceux de la famille, l'amour familial, amour maternel, fraternel, paternel, etc. Tous ces amours nous sont imposés par la société. Dans la plupart des cas, malgré qu'ils nous sont imposés, ils se transforment en vrais sentiments. Mais ceux-ci, imposés pour la plupart des cas, sont un début dans la plupart du cas, ont un début de vrai amour, puisque la famille a commencé par deux êtres qui s'aimaient. Il est plus facile à l'enfant d'avoir de l'amour pour ses parents, qui lui apportent de l'affection, la sécurité, que d'avoir de l'amour pour ses oncles, tantes, pour qui lui ne représente rien. Les sentiments peuvent se poser aussi sur un groupe, un peuple, une équipe, une idée religieuse ou autre. Mais ces sentiments-là, qui peuvent être très forts, ne sont pas naturels. On n'en ressent pas les besoins. Et c'est involontairement que la plupart du temps que l'on les ressent. L'amour divin, c'est un suramour. C'est le plus haut degré de l'amour. C'est aimer l'amour. Pas l'amour représenté par un être, une chose, mais l'amour-amour. C'est aimer ce qu'il y a de plus parfait, de plus pur. C'est aimer d'une façon pure la pureté. De tout temps, il y a des êtres qui ont aimé des divinités, des dieux ou un dieu. Ces êtres étaient et sont toujours entiers et veulent un amour entier. C'est leur recherche de l'amour vrai, pur, qui les a amenés à l'amour divin. Ils sont capables de s'abaisser, de s'humilier, car plus ils s'abaissent, plus ils s'humilient, plus la divinité qu'ils aiment s'agrandit. S'abaisser, devenir, disons, plus bas que terre, c'est le contraire de nous. S'abaisser pour eux veut dire grandir. C'est se rapprocher de son amour tout en étant son esclave. Ils sacrifient leur vie en la consacrant à Dieu. Pour extérioriser leur amour, des pratiques, des sermons, des rythmes, des contraintes. Ils font tout ça. Ils suivent des lignes de conduite, des lois, qui sont en plus des lois humaines. Ces lois sont plus fortes, plus élevées que les lois sociales. La vie entière se passe à prouver leur amour à Dieu en mettant en pratique les lois divines et surtout les rythmes, les prières. L'on se réfugie dans l'amour divin par déception de l'amour humain que l'on ne trouve pas assez pur. Quelquefois, on s'aperçoit de ces sentiments pour une personne que lorsque cette personne n'est plus auprès de vous. L'amour peut être caché par l'habitude de toujours voir la personne. L'habitude nous cache la personne et l'amour est ce que représente vraiment pour nous la personne. L'amour peut être caché par des tas de choses telles que les soucis, la différence de caractère, d'idées, etc. Mais lorsque la personne s'en va et qu'elle a emporté toutes les choses et laisser que l'amour que nous avons pour elle, alors l'amour est visible par le vide que la personne a laissé. L'amour peut être le vide que nous remplissons dans la vie d'un autre, et ce vide n'est visible que lorsque il est vide. Quelquefois l'amour est tellement fort qu'il rend malade. La présence de l'être aimé auprès de soi grandit notre passion et le rend insoutenable. Cette passion qui est trop grande se transforme en angoisse. Cette angoisse vient chaque fois que l'on sait que l'on va voir l'être aimé. Auprès de la personne, il augmente. Alors, on ne sait plus se tenir, quoi dire. On a peur du ridicule. On observe les moindres faits et gestes de soi et de la personne. On est anxieux, soupçonneux. On devient ridicule, bête et ennuyeux. Alors on s'aperçoit que lorsqu'on est loin de l'être aimé, on se trouve plus détendu, plus vrai. L'amour se purifie de toute anxiété. Avec, l'on aime mieux la personne loin d'elle que près d'elle. Certaines personnes s'aperçoivent que l'amour qu'il a pour une personne et l'amour que la personne éprouve pour eux est trop forte et nuise à la personne aimée. L'être aimé a plus de personnalité. Il est la maladie. Et comme les autres malades, le corps se défend en créant un contrepoison qui est la haine. Mais malheureusement, ce contrepoison est si dangereux que la poison, il n'y a rien à faire. Il faut que la personne d'elle-même redevienne à une passion plus juste. Lorsqu'une grande passion se termine par la faute des deux, ou l'un des deux partenaires, ou par la mort l'un des partenaires, ceci se fait avec beaucoup de douleur, de grande peine. On a l'impression que le monde, l'univers va s'effondrer, que ce sera l'apocalypse. On aimerait, c'est hurler, se taper la tête contre les murs. Tout vacille, tout doit s'effondrer. Mourir. Si l'être aimé que l'on ne verrait plus n'est pas mort, la douleur devient terrible, car en plus il y a l'espoir de revoir la personne et que tout s'arrange. On a beau se dire que tout est fini, une voix nous torture en nous disant que tout peut s'arranger. Alors on est capable de tout faire, des folies, de faire toutes sortes de folies, et cela dure. On est pris comme dans un étau entre deux voix, l'une qui nous dit que c'est sans espoir et l'autre le contraire. Si la rupture est causée par la mort d'une des deux personnes, le choc est aussi grand, mais l'on arrive à se faire une raison. Tout en gardant sa peine, elle deviendra plus intérieure, plus repliée. La personne aura une vie moins active et vivra avec ses souvenirs. Dans les deux cas, on risque de devenir fétichiste, de s'inventer une religion à soi, pour soi. L'objet nous rappelle l'être aimé, les jours heureux. Il permet d'exister, de refaire vivre l'amour que l'on a eu pour cette personne et que l'on a encore pour cette personne. Cette religion extériorisement se fait par des rythmes, des gestes quasiment religieux. Cet amour se transforme en une sorte d'amour divin. Ceci défoule la personne, la calme, lui procure aussi la satisfaction d'avoir fait son devoir, d'être resté fidèle. Il y a aussi des pèlerinages que l'on fait dans les endroits où l'on s'est aimé et connu. Pour l'être aimé, qui a envie, mais que l'on ne peut pas voir, le fétichisme et le pèlerinage se fait d'après une longue période, car l'on a extériorisé sa peine, et où la voix qui vous donne de l'espoir, c'est estompé. Pour l'être aimé qui est décédé, le fétichisme et le pèlerinage se fait de suite. De toute façon, dans les deux cas, on ne guérit jamais complètement d'une peine sentimentale. Il en reste toujours quelque chose. L'on ressent de temps en temps, mais toute sa vie, une petite douleur vers le corps, une grande amertume. Après cette étape, l'on n'est jamais le même. On a l'impression d'avoir vieilli, de revenir dans nos voyages. L'on ne voit plus la vie de la même façon. L'on ne sent un autre. On devient amer et neurasthénique. La vie active vous ennuie. Vous rêvez, vous aimez la solitude, le calme. Vous avez changé, mûri. Les autres disent que vous êtes devenu plus sérieux, plus adulte, plus calme. Les passions sentimentales et créatrices. Des joies, des peines que nous avons eues, nous en avons rapporté une certaine connaissance des êtres et nous avons surtout appris la grandeur des affections. Nous sommes devenus plus humains, plus compréhensibles. Nous sommes affinés. Nous sommes plus créatifs, réactifs à la beauté. L'amour nous a fait hommes, ce qui a permis à certains d'extérioriser leur amour avec l'aide de l'art. Les plus belles choses artistiques nous viennent de l'amour. C'est l'amour qui nous a rendu l'homme plus civilisé. C'est l'amour qui a fait avancer la civilisation. Elle a rendu l'homme plus créatif et plus humain. Pour plaire à l'être aimé, l'homme a créé. Pour extérioriser son amour, il a créé. Et l'amour lui a fait prendre conscience qu'il faut respecter son prochain. Quoique les sentiments, tous les sentiments nous fassent souffrir, beaucoup souffrir, et qu'ils nous enlèvent une grande partie de nos capacités, il est malgré tout beau, grand, noble d'aimer et de se sentir aimé. On devient vraiment un être humain que lorsque l'on a connu l'amour. L'amour, être aimé, on se sent grand, devenir grand. Dieu, l'homme, la terre, tout est à nous. Rien n'est plus beau que l'être que l'on aime, quelle que soit la personne que l'on aime. L'on aimerait passer sa vie à ses pieds, mourir dans ses bras, ne voir qu'elle, ne sentir qu'elle soit terre, monde, univers, que tout son être soit la beauté, la pureté, que son odeur soit le parfum, les parfums, que sa vie soit le chant de l'univers. L'aimer, tellement aimer, que l'on veut fondre en elle, faire partie d'elle, devenir elle, ne plus pouvoir vivre sans son entourage, sans elle. Il n'y a rien, ni vie, ni mort. La passion amoureuse est une grande chose qui nous fait beaucoup souffrir, mais qui est indispensable à la grandeur de l'homme. Sans amour, il n'y a pas de vie. La vie, c'est l'amour. La vie nous fait souffrir, l'amour nous fait souffrir. Mais il n'y a qu'une seule loi pour bien vivre et bien aimer, c'est d'aimer son prochain pour soi-même. nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.